Bonjour à toutes et à tous. Christophe Jubien vous souhaite la bienvenue pour cette première balade en été. Alors vous savez l'amour que votre radio porte au haïku, ce petit poème de trois vers né au Japon au XVIIe siècle et qui depuis a franchi les océans pour se répandre sur les cinq continents. C'est tellement vrai que le haïku dispose même d'une émission à lui tout seul cet été sur nos ondes, l'extase du papillon. Et c'est le nom de cette émission. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus par une auteure française bien connue, Diane de Margerie, qui nous offre ces jours-ci une promenade hautement éducative au pays du haïku, un délicieux petit livre de la grenouille au papillon publié chez Arléa. Et ce livre nous introduit dans la chambre secrète de l'âme japonaise, une chambre où on peut entendre des choses comme celle-ci. Ils sont sans parole, l'hôte, l'invité et le chrysanthème blanc. Diane de Margerie, bonjour.
Bonjour, bonjour. J'aime beaucoup ce haïku que vous venez de citer. Oui, je voulais vous dire, avant le haïku, il y avait le tanka, qui avait cinq lignes au lieu de trois. Et ce que je trouve très amusant, c'est que le haïku est né du jeu poétique que les Japonais adorent. Et donc, il fallait couper le tanka en deux et on se passait cela sur des petits papiers. Et le premier qui avait trouvé les deux plus beaux vers, pardon, les trois plus beaux vers pour terminer le tanka, eh bien, il avait gagné. Alors, c'est ainsi qu'est né le haïku, parce qu'après, on a carrément gardé que les trois dernières lignes. Oui.
Alors, entre le Japon et vous, c'est une grande histoire d'amour, mais moi, je trouve qu'elle a mal commencé, cette histoire, puisque les premiers Japonais que vous ayez vus, ce sont ceux de l'armée d'occupation en Chine, où ils ont laissé un très mauvais souvenir, autant le dire.
Oui, évidemment, c'était pendant l'occupation japonaise à Pékin, et c'est vrai que le souvenir était cruel et martial, et en même temps extraordinairement discipliné. Mais ce qui, en fait, j'ai redécouvert le Japon en Beauce. Ça paraît incroyable, mais un jour à Autriche-Saint-Même, j'ai lu un livre traduit par Bernard Franck qui s'appelle Narayama, dont on a fait un film qui, à mon avis, est beaucoup moins beau que le texte de Narayama, qui se rapporte à un rite très très cruel, c'est-à-dire que si une femme avait la chance ou la malchance d'être arrière-grand-mère ou de pouvoir le devenir, on l'emmenait dans les mourir dans les montagnes de Narayama. Et ça m'avait tellement frappée, parce que le garçon qui devait la porter sur ses épaules et l'emmener dans les montagnes, il est redescendu dans un état épouvantable. Tout ça est merveilleusement raconté dans le conte Narayama de Fukuzawa. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire des Japonais à Autriche-Saint-Même en Beauce pendant 2 ans. Voilà comment ça s'est passé.
Avec, je crois, une préférence pour Mishima et Kawabata.
Oui, tout à fait. J'ai une grande préférence pour ces deux-là qui ont d'ailleurs correspondu. Kawabata étant en quelque sorte le maître de Mishima, mais Mishima étant beaucoup plus violent que Kawabata, qui est beaucoup plus rêveur. Et cette correspondance que j'ai préfacée et qui est dans mon livre « L'éventail japonais », eh bien, c'est une grande chose, c'est une grande chose, elle a paru donc à part, là, cette correspondance, et elle montre comment le système maître-élève peut vraiment inspirer les gens. Et il y a des contrastes absolus entre ces deux hommes, mais en même temps, ils ont une visée qui est la même, c'est l'art, la beauté.
Alors, vous avez vécu votre enfance en Chine, est-ce que ça vous a tout de même préparé à la rencontre du Japon? Parce que c'est une culture, la culture japonaise, très marquée par l'empreinte chinoise.
Oui, absolument. Si on remonte dans le temps, c'est ce que me disait François Cheng, si on remonte dans le temps, la poésie, par exemple, est très marquée par la poésie chinoise. Oui, bien sûr que ça, d'abord, la mentalité asiatique, le goût des objets très sobre, les lignes très pures, des porcelaines, les bouquets rares. Toutes ces choses sont communes et influent beaucoup sur une enfant qui, comme ça, est en train de former son propre goût. Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Est-ce que vous avez un goût qui doit beaucoup à la Chine ou au Japon?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Sinon, je n'aurais pas fait ce petit livre pour Arléa, je n'aurais pas écrit le livre sur les auteurs japonais. Et je continue toujours à être obsédée par cette littérature qui est très différente de la nôtre, très imaginative et, je vous dis, assez violente. Elle exprime la violence que nous, très souvent, nous mettons à l'intérieur de nous-mêmes et nous préférons parler de choses sociales, d'amourettes, de choses de ce genre. Et alors, eux, c'est pas tout à fait ça. C'est la confrontation entre deux esprits, très souvent. C'est ça le sujet.
Alors, j'en reviens à votre livre, donc, de la grenouille au papillon, je le rappelle, publié chez Arléa. Il s'agit donc d'une méditation sur la place des animaux dans les arts japonais, alors art littéraire et art pictural. Cette place est importante dans la culture nippone, qui est marquée par le shintoïsme et le bouddhisme, où il n'y a pas d'hierarchie, finalement, entre les règnes.
Absolument, c'est ça que je trouve bouleversant et magnifique, c'est que, au fond, l'homme s'adresse à l'animal comme à un autre lui-même. Et alors, j'ai choisi quelques petits haïkus qui le démontrent. Par exemple, vous avez celui-ci qui est charmant, mais qui est par un des plus grands haïkistes, c'est Basho, 17e siècle. « Réveille-toi, réveille-toi et deviens mon compagnon. » Papillon qui dort. Ou bien encore, la première pluie, le singe aussi, a envie d'un petit manteau. Vous voyez, il y a beaucoup d'humour, souvent, il y a une fraternisation avec l'animal, et souvent même, je dirais, une identification tout à fait extraordinaire. Par exemple, je sais que un des haïkus que Yves Bonnefoy, qui malheureusement vient de mourir, préférait, c'était celui sur le cormoran qui plonge dans l'eau et la fin du poème dit « Mon âme ressort avec le cormoran ». Et alors il m'expliquait toujours que c'est pas du tout que l'âme fait comme le cormoran, c'est pas une analogie, c'est une identification. Et donc, l'être humain est avec le cormoran.
On peut penser aussi à cette phrase de Basho, « Ce que tu vas prendre sur le pain, apprends-le du pain. Hein. »
Oui, c'est tout à fait ça, c'est merveilleux. Enfin, moi, ça m'enchante. Et alors, évidemment, lorsqu'il y a une philosophie comme ça, très riche, où il y a l'humain, la fleur, la faune, la flore, enfin tout ce qu'on veut ensemble, il y a des contrastes. Alors là, vous avez la richesse comme ça de l'unité, mais il y a la richesse de l'ambivalence aussi. Et des contrastes, par exemple, vous avez ceci d'un autre haïkiste que j'adore, qui est Issa. Je trouve très grand. Liserons éclatants de midi, flammes parmi les cailloux. Et ça, il y a un contraste énorme. Évidemment, on se dit les cailloux vont durer indéfiniment, tandis que les liserons éclatants sont comme des flammes qui vont malheureusement s'éteindre. Et là, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas seulement l'instant que capte le haïku, c'est une véritable philosophie des étapes de la vie. Et c'est pour ça que vous les avez souvent rangées dans des volumes printemps, été, automne, hiver, parce que ce sont les quatre étapes de la vie qui, au fond, ressemblent aux étapes humaines. Et ça m'intéresse beaucoup qu'ils aient catalogué ça comme ça, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas de poésie plus libre que le haïku, mais parfois, elle est groupée par saison, et c'est intéressant.
Alors, il y a aussi des notions qu'on retrouve comme ça dans l'haïku traditionnel, qu'on désigne par exemple sous le nom de aware, qui est une sorte de mélancolie, de saoudade un peu, non?
Oui, il y a il y en a qui sont mélancoliques. Par exemple, les plus autobiographiques sont mélancoliques. Ou alors, si vous voulez, ceux qui ont une approche de la mort très philosophique, comme par exemple, celui, encore une chose de Issa, ne possédant rien, comme mon cœur est léger, comme l'air est frais. Il y a une sorte de renoncement qui est un acquiescement au fond à la vie, qui est un bonheur de vivre en même temps, mais qui sait très bien où nous allons en fin de compte.
D'autant plus étonnant que ça a une vie terrible avec ayant perdu des enfants, etc. Et il
Ah
y a
oui,
cette.
ça a eu une vie très douloureuse avec beaucoup de maladies, la maison qui a brûlé, la famille qui était jalouse de ses possessions, etc. Et il n'empêche qu'il sort de Issa précisément une joie de vivre extraordinaire. Et il y en a un autre qui est très bon, c'est Chiki. Alors, par exemple, pour les contrastes qui finissent en fusion, en unité, par exemple, je vous cite, la barque et la rive, juste conversant ensemble, la longue journée. Alors, on voit la barque qui flotte, la rive qui est à côté, et en même temps, le rapport qu'il y a entre les deux, et que l'un ne peut pas vivre sans l'autre, au fond. Et puis un autre, par exemple, foulant les nuages tout en aspirant la brume, l'essor des alouettes. Alors on voit l'infini, les nuages, etc., et l'essor, l'effort même des alouettes qui vont rejoindre l'infini. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Oui, donc justement, c'est cet équilibre qui m'intéresse. Cet équilibre qui permet d'ailleurs à l'animal de défier son destin. Par exemple, il y a ce haïku de Basho toujours. Au seuil de la mort, plus bruyante que jamais, cigales d'automne. Elles savent que c'est l'automne, mais ça ne les empêche pas de chanter. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce poème, le haïku, c'est qu'en plus, il n'y a pas comment est-ce qu'on dit, de virgule, il n'y a pas de ponctuation. Toutes les phrases se suivent comme si l'action était dans chaque phrase et qu'elle continuait. Donc pas de virgule, point, rien du tout de tout cela. Et en plus, le haïku est très réaliste souvent. Il y a des chiens, des chats, des plantes. Il y a de tout. Il y a la vie quotidienne. Il y a des temples en ruine. Le haïku est lucide. Il n'est pas romantique. Il est carrément lucide. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce haïku? Ah oui, le haïku montre aussi le temps. Par exemple, quand il décrit un petit escargot qui monte sur le mont Fuji, il lui dit d'aller lentement, lentement. Et ça, c'est très beau parce qu'il y a la notion du temps et en même temps celle de l'infini. Et à cause du fait qu'il n'y a pas de ponctuation, qu'il y a toujours les contrastes entre le ciel et la terre, etc. Et ça, je trouve que c'est très beau parce que ça va vers l'intemporel. On est au-delà du temps. Et ça me rappelle des choses chez Proust, chez Marcel Proust. Une certaine philosophie qu'il faut être intemporel, il ne faut pas dépendre du temps.
Et même dans les descriptions de Proust, non? Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas un côté comme ça, japonard, pour reprendre le.
Si, par exemple, il s'empresse du côté de chez Swann de faire que tous les objets d'Odette sont des objets asiatiques. Donc, je pense qu'il avait une certaine connaissance de l'Asie. Et puis, surtout, sa pensée rejoint à la fois la création, car enfin c'est très créatif le haïku, il n'a fait que créer, mais lui il a fait ce que le haïku ne fait jamais, il aimait la digression et l'explication, et le haïku n'aime que la suggestion, et c'est le lecteur qui doit terminer le haïku dans sa tête.
Alors, ce qui est fascinant aussi dans le haïku, c'est cet espace d'effacement du sujet, bien sûr. On peut penser à Jacoté disant « l'effacement soit ma façon de resplendir ». Et on a cette impression de, voilà, le sujet recule et laisse place à ce qui est montré.
C'est vrai, mais le sujet existe quand même. Et ça m'a frappé parce qu'il y a plusieurs haïkus douloureux sur un haïkiste qui n'arrive pas à écrire son poème. Et puis, par exemple, il y en a aussi qui sont très personnels. Je vais vous en lire un. Je crois qu'il est... C'est l'épitaphe, à mon avis, une épitaphe que Bachot voulait mettre sur sa tombe, mais enfin, il ne l'a pas fait. Alors, c'est donc là... Non, pardon. C'est donc ça, ma demeure pour la vie. 5 pieds de neige. Bon, c'est peut-être... Excusez-moi, c'est Issa. De mon préféré, c'est Issa. C'est Issa. Ah, oh, Issa, quelle merveille.
Et pourquoi vous le préférez pourquoi c'est votre petit préféré, Issa?
Ah, parce que je trouve qu'il envisage tout. Avec une modestie et naturellement une concision forcée, mais il y a tout, il y a la vie, la mort, la nature, le quotidien, il y a tout, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et alors ce qui est amusant, c'est quand il raconte, quand il dit quelle est son épitaphe, après tout de suite il écrit « Mon ombre, elle aussi, est au meilleur de sa forme, matin de printemps ». Ah, c'est merveilleux, les contrastes de la vie, les étapes. Oui, ça, pour moi, c'est un très, très grand. Et je voulais dire aussi que ces contrastes aboutissent à une sorte de merveilleuse harmonie. Par exemple, je vais lire encore Issa, n'est-ce pas ? Quelle harmonie ! Comme j'aimerais renaître, papillon des champs. Donc il y a aussi, après la mort, cette idée qu'il y aura une autre vie. Enfin, il y a toujours une sorte d'espoir extraordinaire qui illumine les petits haïkus d'Issa. Oui. Par exemple, et puis alors il y a une grande simplicité d'observation de l'animal. Par exemple, de Issa. Bien tranquillement, elle observe la montagne, la grenouille verte.
Il y a aussi une certaine trivialité parfois. Hein, oui. On est dans l'ordinaire jusqu'à la trivialité avec un humour très irrévérencieux, souvent oui, Issa notamment.
J'avais lu, mais je ne les ai pas gardées dans mon livre, mais j'avais lu des choses sur la morve du nez du Bouddha. Ça m'avait fait rire. Mais enfin là, je voulais surtout... me pencher sur le côté philosophique du haïku, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est une philosophie de vie totale.
Est-ce que c'est une philosophie inspirée du bouddhisme zen, on peut le dire ?
Je pense que c'est très zen, oui. Mais alors, ce qui est inouï aussi, c'est cette manière de faire fraterniser les règnes et la pitié que... un élément végétal peut avoir pour un autre. Par exemple, c'est de Buzon, qui est un autre très bon. Les fleurs de prunier tombant, comme il est seul, le saule pleureur. C'est très beau, cette fraternité du végétal. Et il y a un grand sentiment de pitié aussi qui m'intéresse beaucoup. Parce que c'est presque un sentiment humain et presque dans les haïkus, le sentiment de pitié humain est beaucoup plus chez les animaux ou les plantes que chez les humains. D'ailleurs, j'ai remarqué avec étonnement qu'il n'y a pas de haïku amoureux. C'est parce que tout est amour dans le haïku. Amour des fleurs, amour des règnes. Et comme on peut résumer en une phrase, toutes les vies sont une.
On est très opposé à ça, je trouve, en Occident, où on cultive un certain amour pour la littérature de ressentiment. La grande littérature, c'est la littérature du ressentiment. Là-bas, c'est pas vraiment ça, hein.
Non, mais c'est ça dans les romans. Oui. C'est pas ça du tout dans le haïku, où c'est la fraternité, l'identification, la pitié, l'amour de tout, du quotidien. Alors que les romans expriment toute cette violence comprimée qu'il y a chez les Japonais et qui font qu'il y a quand même 100 000 personnes par an qui sont terrifiés par les villes, les bureaux, les patrons, les lois, les rites, le passé, toujours prégnant, et qui disparaissent dans les montagnes, qui vivent complètement, au fond, à côté des animaux, dans les forêts.
C'est un phénomène très, très étonnant. Hein.
On les appelle les évaporés. Oui, ils s'en vont. Et alors, et en même temps, je vous disais, c'est personnel, parce que, par exemple, il y a des petits haïkus tout à fait autobiographiques. Pluie de printemps, celui qui ne peut écrire, comme il devient triste. Ou alors, celui-ci que j'aime profondément, peut-être vous allez me dire de qui il est. Le papillon voletant, je me sens moi-même une créature de poussière.
Je crois qu'il ait dit ça aussi, celui-ci, non ? Non ?
Comment ?
Il ait dit ça, oui.
Ça doit être de Issa. Oui, ah, je l'ai mis. Ah, je le relis. Le papillon voletant, je me sens moi-même une créature de poussière. À vous, Issa.
Alors, j'aimerais en savoir davantage parce que vous m'avez dit, je vais être très indiscret, donc on vous connaît comme romancière, vous avez aussi écrit des récits de voyage, vous êtes une Proustienne passionnée et très avertie bien sûr, mais vous écrivez aussi des haïkus, m'avez-vous dit, maintenant ?
Ah oui, alors maintenant j'ai mis ce rythme dans ma tête que je trouve très beau, c'est-à-dire il y a une longue phrase comme « Mon âme plonge dans l'eau et ressort avec le cormoran ». Et c'est toujours la nouvelle surprenante qui est dans la dernière ligne. Alors ça, j'aime beaucoup. Donc maintenant, quand je vais remercier mes amis d'avoir été gentils pour moi, je vais leur écrire en haïkiste. Et je vais toujours trouver un mot merveilleux pour terminer le poème. Je vais m'employer à ça.
Finalement, le haïku nous prouve qu'on n'en a jamais fini avec la nouveauté du monde.
Avec la nouveauté du monde ? Le haïku
nous le prouve. Oui.
Ah oui, absolument, absolument. Enfin, quand même, il vient du XIIe siècle et du XVIIe siècle, etc. Mais il nous apprend quelque chose de nouveau, un rythme que nous n'avions pas, qui balaye l'importance d'une description et surtout d'une explication. C'est à nous de comprendre et tout est là dans ces trois lignes.
Je crois que vous nous disiez peut-être deux mots de Soseki, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Oreiller d'herbe. C'est une sorte de roman haïku, je crois qu'il le disait lui-même.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai une grande passion pour Soseki parce que, en fait, ses romans sont des longs poèmes. Et dans mon livre sur le Japon, justement, j'ai fait une rêverie d'après Soseki, qui est un texte que j'ai imaginé. Et puis, Soseki, il est proche de nous, proche des êtres humains, mais tout également proche de la nature. Donc c'est un très grand, c'est un immense, oui.
J'étais très étonné en vous lisant d'apprendre que Glenn Gould avait une passion pour ce livre Oreiller d'herbe de Soseki.
Mais oui, moi j'ai appelé, mais oui, il a une passion pour Oreiller d'herbe. Et puis moi j'ai appelé ma nouvelle, enfin, dans mon livre, Herbe. Parce qu'il y a, y a trois livres de Soseki où il y a le mot herbe. Donc je me suis dit, il faut vraiment faire comme lui. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y a quelqu'un d'autre aussi, à part Soseki, qui a écrit des merveilles sur le Japon. C'est, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est Lafka Johan. Alors, je vais essayer de trouver. Il a écrit un livre sur le Japon qui est, je crois, traduit ici. Voilà. Oui, je vais terminer avec cette citation de Lafka Johan, si vous permettez, parce que j'aime profondément. Alors, Lafka Johan, qui a plongé dans la culture japonaise pendant toute sa vie, l'a admirablement exprimé, et je fais ma citation. « La plainte grêle du grillon nocturne est peut-être celle d'une voix jadis humaine qui se lamente. » Les singulières marques rouges qui se voient sur la tête des cigales sont sans doute les noms de fantômes. Les libellules et les sauterelles sont les chevaux des morts. Nous devons avoir pour tous ces êtres cette pitié qui est sœur de l'amour.
C'est une belle fin, Diane et Marjorie. Merci beaucoup. Je vous rappelle le titre de votre livre, De la grenouille au papillon, publié aux éditions Arléa et qui bénéficie d'un crédit iconographique superbe. C'est dernier à voir autant qu'à lire.
Hein. Ah oui, j'étais vraiment... Et puis alors, si vous voulez, j'étais vraiment reconnaissante. Chaque image, chaque reproduction, chaque tableau, chaque gravure correspond au texte. Cela prouve chez le metteur en page et chez l'éditrice merveilleuse d'ailleurs, Anne Bourguignon, cela prouve un savoir raffiné.
Merci beaucoup.
Merci à vous.